Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de Monsieur Bonhomme. Chapitre 4. Passons au vénérable faubourg de Clerkenwell, car c'était jadis un faubourg, pénétrons dans cette partie de ses confins, la plus voisine de Charterhouse, et dans une de ses rues fraîches, ombreuses, dont il ne reste plus que quelques échantillons éparpillés dans ces vieux quartiers de la capitale. Là, chaque demeure végète tranquillement, comme un bon vieux bourgeois qui, depuis longues années, retiré des affaires, roupille sur ses infirmités, jusqu'à ce que, par la suite du temps, il fasse la culbute pour céder la place à quelque jeune héritier, dont l'extravagante vanité se pavanera dans les ornements en stuc de sa maison rajeunie et dans tous les colifichets de l'architecture moderne. C'est dans ce quartier et dans une rue de ce genre que nous réclament les faits du présent chapitre. À l'époque dont il s'agit, quoiqu'elle ne date que des 70 ans, une très grande partie de Londres n'existait pas encore. Même les plus effrénés spéculateurs n'avaient point fait éclore dans leur cerveau d'immenses lignes de rues reliant Highgate avec Whitechapel, ni des rassemblements de palais sur des marécages desséchés et comblés, ni de petites cités en rase campagne. Quoique cette partie de la ville fût alors, comme de nos jours, sillonnée de rues et fort peuplée, sa physionomie était bien différente. La plupart des maisons avaient des jardins, le long du trottoir s'élevaient des arbres, on respirait de tous côtés une fraîcheur que, par ce temps-ci, on y chercherait vainement. On avait à sa porte des champs à travers lesquels serpentaient les eaux de New River, et il se faisait là dans l'été de joyeuses fenaisons. La nature n'était pas si éloignée, si reculée qu'elle l'est de nos jours, et quoiqu'il y eût beaucoup d'industries actives dans Clerkenwell et des ateliers de bijoutiers par vingtaine, c'était un endroit plus salubre, plus à proximité des fermes qu'une foule d'habitants du Nouveau Londres ne serait disposée à le croire, plus à porter aussi des promenades pour les amoureux, promenades qui se changèrent en cours dégoûtantes, longtemps avant que les amoureux de ce siècle eussent été mis au monde, ou selon la phrase consacrée, avant qu'on pensât seulement à eux. Dans l'une de ces rues, la plus propre de toutes, et du côté de l'ombre, car les bonnes ménagères savent que le soleil endommage les tentures objets de leurs soins, et elles aiment mieux l'ombre que l'éclat des rayons pénétrants, se trouvait la maison dont nous avons à nous occuper. C'était un modeste bâtiment, qui n'était pas de la dernière mode, ni trop large, ni trop étroit, ni trop haut. Il n'avait pas de ces façades hardies avec ces grandes fenêtres qui vous regardent effrontément. C'était une maison timide, clignant des yeux, pour ainsi dire, avec un toit en cône qui se dressait en forme de pic au-dessus de la fenêtre du grenier, garni de quatre petits carreaux de vitre comme un chapeau à cornes sur la tête d'un monsieur âgé qui n'a qu'un œil. Elle n'était pas bâtie en briques ni en pierre de taille, mais en bois et en plâtre. Elle n'avait pas été dessinée avec un monotone et fatigant respect de la symétrie, car il n'y avait pas deux fenêtres pareilles. Chacune d'elles semblait tenir à ne ressembler à rien. La boutique, car il y avait une boutique, était au rez-de-chaussée comme toutes les boutiques. Mais là, toute ressemblance entre elle et une autre boutique cessait brusquement. Les gens qui entraient ou sortaient n'avaient pas à monter quelques marches ou à glisser de plein pied sur le sol au niveau de la rue, mais il leur fallait descendre par 3 degrés fort roides et plonger comme dans une cave. La place était pavée avec de la pierre et de la brique, ainsi qu'aurait pu l'être celle de toute autre cave. Et au lieu d'une fenêtre à châssis et à vitres, il y avait un grand battant ou volet de bois peint en noir, presque à hauteur d'appui, qui se reployait pendant le jour, donnant autant de froid que de jour, très souvent même moins de jour que de froid. Derrière cette boutique était une salle à manger, lambrissée, ayant vue d'abord sur une cour pavée et au-delà, sur une terrasse et un petit jardin à quelques pieds au-dessus de la salle. Tout le monde aurait supposé que cette salle lambrissée, sauf la porte de communication par laquelle on avait été introduit, était retranchée du reste de l'univers. Et véritablement, on avait remarqué que beaucoup d'étrangers, en y entrant pour la première fois, étaient devenus extrêmement pensifs et semblaient chercher à résoudre dans leur esprit le problème de savoir si les chambres de l'étage supérieur n'étaient accessibles que du dehors par des échelles, ne soupçonnant jamais que deux des portes les moins prétentieuses et les plus invraisemblables qu'il y eût au monde, et que les plus ingénieux mécaniciens de la Terre devaient de toute nécessité supposer des portes de cabinet, ouvraient une issue hors de cette salle, chacune sans la moindre préparation et sans livrer plus d'un quart de pouce de passage sur deux escaliers noirs et tournants, l'un dirigé vers le haut, l'autre vers le bas. Car c'était là les seuls moyens de communication entre cette pièce et les autres parties de la maison. Avec toutes ces singularités, il n'y avait pas une maison plus propre, plus scrupuleusement rangée, plus minutieusement ordonnée dans Clerkenwell, dans Londres, dans toute l'Angleterre. Il n'y avait pas de croisées mieux nettoyées, de planchers plus blancs, de poêles plus brillants, de meubles en vieille acajou d'un lustre plus admirable. On ne frottait pas, on ne grattait pas, on ne brunissait pas, on ne polissait pas davantage dans toutes les maisons de la rue prises ensemble. Et cette perfection n'était pas obtenue sans quelques frais, quelques peines et une grande dépense de poumons. Les voisins ne s'en apercevaient que trop quand la bonne dame du logis veillait et aidait elle-même à ce que tout fût mis en état les jours de nettoyage, ce qui d'habitude avait lieu du lundi matin au samedi soir, ces deux jours inclus. Appuyé contre le montant de la porte de ce logis qui était le sien, le serrurier se tenait debout de bonne heure, le lendemain du jour où avait eu lieu sa rencontre avec le blessé, considérant d'un air inconsolable son enseigne, une grande clé de bois, peinte en jaune vif pour simuler l'or, laquelle pendillait sur le devant de la maison et oscillait à droite et à gauche, en criant d'une manière lugubre, comme si elle se plaignait de n'avoir rien à ouvrir. Quelquefois, il regardait par-dessus son épaule dans la boutique, qui était si assombrie par les nombreuses marques de sa profession, si noircie par la fumée d'une petite forge près de laquelle son apprenti était à l'ouvrage, qu'il eût été difficile pour un œil inaccoutumé à des investigations de ce genre de distinguer là autre chose que divers outils d'une façon et d'une forme grossières, de grands paquets de clés rouillées, des morceaux de fer, des serrures à moitié finies et maints objets de même nature garnissant les murailles ou pendant en grappes du plafond. Après une longue et patiente contemplation de la clé d'or et plusieurs coups d'œil lancés ainsi derrière lui, Gabriel fit quelques pas dans la rue et dirigea un regard furtif vers les fenêtres de l'étage supérieur. L'une d'elles, par hasard, s'ouvrit toute grande en ce moment et une figure friponne rencontra la sienne. C'était une figure illuminée par la plus aimable paire d'yeux étincelants sur lesquels un serrurier eût jamais fixé sa vue. C'était la figure d'une jeune folle, jolie, rieuse, aux fraîches fossettes pleines de santé, la véritable personnification de la bonne humeur et de la beauté dans sa fleur. « Chut !» dit-elle tout bas, en se penchant et montrant avec malice la fenêtre d'au-dessous. « Mère dort encore !»« Encore, ma chérie !» répondit le serrurier du même ton. « Tu en parles à ton aise ! Ne dirait-on pas qu'elle a dormi toute la nuit, quand elle n'a guère eu plus d'une demi-heure de sommeil ? Mais Dieu soit loué, le sommeil est une bénédiction, il n'y a pas de doute à cela !» Le serrurier marmotta ces derniers mots pour lui seul. « C'est bien cruel à vous de nous avoir tenus sur pied si tard dans la nuit, sans seulement nous dire où vous étiez, et sans nous envoyer au moins un petit mot pour nous rassurer, » reprit la jeune fille. « Ah, Dolly, Dolly !» répliqua le serrurier, secouant la tête et souriant. « C'est bien cruel à vous d'avoir couru là-haut dans votre chagrin pour vous mettre au lit. Descendez déjeuner, petite folle, et bien doucement. Ou vous réveilleriez votre mère. Elle doit être fatiguée, j'en suis sûr.
Certainement, elle doit l'être. »
Gardant pour lui ces derniers mots et répondant au signe de tête de sa fille, il allait entrer dans sa boutique, la figure encore toute rayonnante du sourire que Dolly y avait éveillé, lorsqu'il put voir, juste au moment même, le bonnet de papier goudronné de son apprenti faire un plongeon afin d'éviter l'œil du maître et se reculer de la fenêtre pour retourner en tapinois à sa première place, où il ne fut pas plus tôt qu'il se mit à jouer vigoureusement du marteau.
« Encore Simon aux aguets, » se dit Gabriel. « Ça ne vaut rien. Que diable croit-il donc que la petite va dire ? Toujours je le surprends à écouter lorsqu'elle parle, jamais à un autre moment. Mauvaise habitude. Mauvaise habitude, Sim, que de se cacher comme ça pour faire ses coups à la sourdine. Ah, vous avez beau jouer du marteau, vous ne m'ôterez pas cela de l'idée, quand vous y travailleriez toute votre vie. »
En se parlant ainsi à lui-même et secouant la tête d'un air grave, il rentra dans l'atelier et toisa l'objet de ses remarques.
« En voilà assez pour l'instant, » dit le serrurier. « Il est inutile de continuer ce bruit infernal. Le déjeuner est prêt. »«
Monsieur, » dit Sim en levant les yeux sur son maître avec une politesse étonnante et un petit salut à lui qui s'est arrêté net au cou, « je suis à vous immédiatement. »
« Je suppose, » marmotta Gabriel, que c'est une phrase de la guirlande de l'apprenti, ou des délices de l'apprenti, ou du chansonnier de l'apprenti, ou du guide de l'apprenti à la potence, ou de quelque autre livre instructif de ce genre-là. Bon, ne va-t-il pas maintenant se faire beau? Un amour de serrurier, ma foi. Sans se douter le moins du monde que son maître l'observait de la sombre encoignure près de la porte de la salle à manger, Sim jeta son bonnet de papier, sauta à bas de son siège et, en deux pas extraordinaires, quelque chose entre l'enjambée d'un patineur et celle d'un danseur de menuet, il bondit jusqu'à une sorte de lavabo à l'autre bout de l'atelier et là il fit disparaître de sa figure et de ses mains toutes les traces du travail de la matinée, exécutant le même pas pendant tout le temps avec le plus grand sérieux. Cela fait, il tira de quelque endroit caché un petit morceau de miroir dont il s'aida pour arranger ses cheveux et constater l'état exact d'un petit bouton qu'il avait sur le nez. Ayant alors parachevé sa toilette, il posa le morceau de miroir sur un banc peu élevé et regarda par-dessus son épaule tout ce qui put se refléter de ses jambes dans un cadre si étroit, avec une extrême complaisance et une extrême satisfaction. Sim, comme on l'appelait dans la famille du serrurier, ou monsieur Simon Tappertit, comme il s'appelait lui-même, et exigeait que tout le monde l'appelât au dehors les jours de fête, sans compter les dimanches, était un drôle de corps d'une figure mince, aux cheveux plats, aux petits yeux de petite taille, n'ayant pas beaucoup plus de 5 pieds, mais absolument convaincu dans son propre esprit qu'il était au-dessus de la taille moyenne et plutôt grand qu'autrement. Sa personne, qui était bien faite, quoique des plus maigres, lui inspirait une haute admiration, et ses jambes, qui dans sa culotte courte étaient deux curiosités, deux raretés au point de vue de leur exiguïté, excitaient en lui l'enthousiasme à un degré voisin de l'extase. Il avait aussi quelques idées majestueusement nuageuses que n'avaient jamais songé à fond ses amis les plus intimes sur la puissance de son œil. On n'ignorait pas qu'il était allé jusqu'à se vanter de pouvoir complètement réduire et subjuguer la plus fière beauté par un simple procédé qu'il définissait l'œillade fascinatrice. Mais il faut ajouter que de cette puissance, pas plus que d'un don homogène qu'il prétendait avoir de vaincre et dompter les animaux même enragés, il n'avait jamais fourni de preuves qu'on pût estimer tout à fait satisfaisantes et décisives. Ces prémices permettent de conclure que le petit corps de M. Tappertit renfermait une âme ambitieuse et pleine de présomption. De même que certaines liqueurs contenues dans des barils de dimensions trop étroites fermentent, s'agitent et s'échauffent dans leur prison, ainsi l'essence spirituelle de l'âme de M. Tappertit fumait quelquefois dans le précieux baril de son corps, jusqu'à ce que, avec beaucoup d'écume, de mousse et de fracas, elle s'ouvrit de force un passage et emporta tout devant elle. Il avait coutume de remarquer, dans ces occasions, que son âme lui avait monté à la tête, et dans ce nouveau genre d'ivresse, il lui était arrivé nombre d'anicroches et de mésaventures qu'il avait fréquemment cachées, non sans de grandes difficultés, à son digne maître. Sim Tappertit, parmi les autres fantaisies dont cette âme se repaissait et se régalait incessamment, fantaisies qui, telles que le foie de Prométhée, se multipliaient par la consommation, avait une haute idée de son ordre, et la servante l'avait entendu exprimer ouvertement le regret que les apprentis ne pussent plus porter de bâton pour en assommer les Pékins, selon son expression énergique. Il aurait dit aussi qu'on avait jadis stigmatisé l'honneur de leur corps par l'exécution de George Barnwell, que les apprentis n'eussent pas dû se soumettre bassement à cette exécution, qu'ils eussent dû réclamer leurs collègues à la législature, d'abord d'une manière calme, puis, s'il le fallait, au moyen d'un appel aux armes, dont ils auraient fait usage, comme ils l'auraient jugé à propos dans leur sagesse. Ces réflexions l'amenaient toujours à considérer quel glorieux instrument les apprentis pourraient devenir encore si seulement ils avaient à leur tête un esprit supérieur. Et il faisait alors, d'une façon ténébreuse et terrifiante, pour ceux qui l'écoutaient, allusion à certains gaillards de sa connaissance, tous crâne fini, et à un certain cœur de lion, prêt à devenir leur capitaine, lequel, une fois en besogne, ferait trembler Lord Mayor sur son trône municipal. Quant au costume et à la décoration personnelle, Sim Tappertit n'était pas d'un caractère moins aventureux ni moins entreprenant. On l'avait vu, chose incontestable, ôter des manchettes super fines au coin de la rue les dimanches soirs et les mettre soigneusement dans sa poche avant de rentrer au logis. Et il était notoire que tous les jours de grandes fêtes, il avait l'habitude de changer ses boucles de genouillères en simple acier contre des boucles de strass reluisants sous l'abri amical d'un poteau très commodément planté au dit endroit. Ajoutez à cela qu'il était âgé de 20 ans, juste, que son extérieur lui en donnait davantage et sa suffisance au moins 200, qu'il ne trouvait pas de mal à ce qu'on le plaisantât en passant sur son admiration pour la fille de son maître, et qu'il avait même, comme on l'invitait dans une certaine taverne obscure, à proposer la santé de la dame qu'il honorait de son amour, porté le toast suivant avec force œillades et lorgnades. Une belle créature dont le nom de baptême commence par un D. Et maintenant, le lecteur sait de Sim Tapertit, qui avait en ce moment rejoint à table le serrurier, tout ce qu'il est nécessaire d'en savoir pour faire connaissance avec lui. C'était un repas substantiel, car indépendamment du thé de rigueur et de ses accessoires, la table craquait sous le poids d'une bonne rouelle de bœuf, d'un jambon de première qualité et de divers étages de gâteaux beurrés du Yorkshire, dont les tranches s'élevaient l'une sur l'autre dans la disposition la plus appétissante. Il y avait aussi un superbe cruchon bien verni, ayant la forme d'un vieux bonhomme qui ressemblait un peu au serrurier. Au-dessus de sa tête chauve était une belle mousse blanche qui lui tenait lieu de perruque et promettait à ne pas s'y tromper une ale pétillante brassée à la maison. Mais plus adorable que cette ale brassée, cette ale jolie brassée à la maison, que le gâteau du Yorkshire, que le jambon, que le bœuf, qu'aucune autre chose à manger ou à boire que la terre ou l'air ou l'eau pût fournir, il y avait là, présidente à tout, la fille du serrurier, aux joues de rose. Devant ses yeux noirs, le bœuf perdait tout son prestige et la bière n'était plus rien, ou peu s'en faut. Les pères ne devraient jamais embrasser leur fille en présence des jeunes gens, c'est trop aussi. Il y a des limites aux épreuves humaines. Voilà justement ce que pensait Sim Tapertit quand Gabriel attira vers ses lèvres les lèvres rosées de sa fille. Ses lèvres qui étaient chaque jour si près de Sim et pourtant si loin. Il respectait son maître, mais il aurait souhaité dans ce moment-là que le gâteau de Yorkshire l'étouffât plutôt. « Père, dit la fille du serrurier lorsque fut finie cette embrassade, qu'est-ce donc que j'apprends? Est-il bien vrai que cette nuit... »«
Tout ça est vrai, cher enfant, vrai comme l'évangile, Dole.
Monsieur Chester, fils, volé et gisant blessé sur la route quand vous êtes survenu. »«
Oui, monsieur Edouard.
Et auprès de lui, Barnabé, criant au secours tant qu'il pouvait. »
Je suis survenu fort à point, car c'est une route solitaire. Il était tard et comme la nuit était froide et que le pauvre Barnabé avait encore moins de raison qu'à l'ordinaire, par suite de sa surprise et de son épouvante, le jeune monsieur n'en avait pas pour longtemps de s'en aller dans l'autre monde.
Ah, je tremble rien que d'y penser, cria sa fille en frémissant. Comment l'avez-vous reconnu ?
Reconnu, répliqua le serrurier, je ne l'ai pas reconnu, et le moyen de le reconnaître. Je ne l'avais jamais vu. J'avais seulement maintes fois entendu parler de lui, comme j'en avais parlé moi-même, sans le connaître. Je l'ai transporté chez Mistress Rudge, et elle ne l'eut pas plutôt vu qu'elle me dit qui c'était.
Mademoiselle Emma, père, si cette nouvelle lui arrive, exagérée comme elle le sera certainement, est capable d'en devenir folle.
Eh mais, écoutez donc encore, et voyez à quoi un homme s'expose quand il a bon cœur, dit le serrurier. Mademoiselle Emma était avec son oncle au bal masqué à Carlisle House. Elle y était allée bien malgré elle, m'a-t-on dit, à la garenne.
Savez-vous ce qu'a fait votre imbécile de père après avoir tenu conseil avec Mistress Rudge? Il y va lorsqu'il aurait dû y être dans son lit. Il sollicite la protection de son ami le portier, s'affuble d'un masque et d'un domino et se mêle au masque.
Ah, et comme c'est bien digne de lui d'avoir fait cela, s'écria la fillette, lui mettant son beau bras autour du cou et lui donnant le plus enthousiaste des baisers.
« Bien digne de lui, répéta Gabriel, qui affectait de grommeler, mais qui évidemment était enchanté du rôle qu'il avait joué et des louanges de sa fille.
« Bien digne de lui. C'est ainsi que parle votre mère. Cela n'empêche pas qu'il s'est mêlé à la foule, harcelé, tourmenté, je vous en réponds, par des gens qui venaient lui rebattre les oreilles de leur « Est-ce que tu ne me connais pas, beau masque ? Moi, je te connais bien !» et d'un tas de sottises de cette espèce, sans compter qu'il y serait encore à chercher. S'il n'y avait eu dans une petite salle une jeune dame qui venait de retirer son masque à cause de l'extrême chaleur de l'endroit et qui restait assise là toute seule.
« Et c'était elle ? Dit sa fille précipitamment.
Et c'était elle, répondit le serrurier. Et je ne lui ai pas plutôt murmuré à l'oreille ce dont il s'agissait, avec autant de ménagement, d'ol et presque avec autant d'art que vous auriez pu en mettre vous-même, qu'elle jeta un cri aigu et s'évanouit.
Et alors, qu'arriva-t-il après ? Demanda sa fille.
Mais un troupeau de masques accourut autour d'elle, il y eut un bruit général, un brouhaha, et je m'estimais heureux de m'esquiver.
Voilà tout, répliqua le serrurier.
Ce qui arriva lorsque je revins au logis, vous pouvez le deviner si vous ne l'avez pas entendu.
Ah, bien, ma foi, il ne faut pas toujours avoir la mort dans l'âme. Passez-moi Toby par ici, cher enfant.
Ce Toby, c'était le cruchon brun dont il a déjà été fait mention. Le serrurier, qui pendant tout l'entretien avait exercé d'affreux ravages parmi les comestibles, appliqua les lèvres au front bienveillant du digne bonhomme et les y laissa si longtemps collés, tandis qu'il levait lentement le vase en l'air, qu'à la fin il eut la tête de Toby sur son nez. Alors il fit claquer ses lèvres et le replaça sur la table avec un regret plein de tendresse.
Quoique Sim Tapertit n'eût pas pris part à cette conversation et que la parole ne lui eût jamais été adressée, il n'avait pas manqué de faire, en silence, les manifestations d'étonnement qu'il croyait les plus propices à déployer avec succès la puissance fascinatrice de ses yeux. Regardant la pause qui avait suivi le dialogue comme une circonstance particulièrement avantageuse et voulant frapper un grand coup sur la fille du serrurier, elle le regardait alors à ce qu'il croyait dans une muette admiration, il commença à crisper et à contracter sa figure et principalement ses yeux, à faire des contorsions si extraordinaires, si hideuses, si incomparables que Gabriel, qui regarda par hasard de son côté, en fut tout ébahi.
Mais que diable a donc ce garçon ? Cria le serrurier. Est-ce qu'il s'étouffe ?
Qui ? Demanda Sim avec quelque dédain.
Qui ? Eh mais vous ? Répliqua son maître. Pourquoi faites-vous ces horribles grimaces à table ?
Chacun son goût, monsieur. Si j'aime les grimaces, moi, dit M. Tapertit, un peu décontenancé.
Et ce qui le déconcertait le plus, c'était d'avoir vu la fille du serrurier sourire.
Sim, répliqua Gabriel en riant de bon cœur, pas de bêtises. Je voudrais vous voir devenir raisonnable.
Ah, ces jeunes gens, ajouta-t-il en se tournant vers sa fille, sont toujours à faire quelque folie.
Il y a eu une querelle hier au soir entre Joe Willett et le vieux John. Quoique je ne puisse pas dire que Joe fut tout à fait dans son tort. Un de ces matins, on ne les trouvera plus là-bas. Il sera parti pour chercher fortune et courir la prétentaine.
Mais qu'y a-t-il d'ol ? C'est vous qui faites des grimaces maintenant ? Alors, je vois bien que les filles ne valent pas mieux que les garçons.
C'est le thé, dit Dolly en devenant tour à tour très rouge et très pâle. C'est toujours comme ça quand on se brûle. Il est si chaud.
Monsieur Tapertit fit de gros yeux à un pain de 4 livres qui était sur la table et respira fortement.
Est-ce tout ? Répondit le serrurier. Mais dans ton thé, un peu plus de lait ? Oui, j'en suis fâché pour Joe parce que c'est un brave jeune homme qui gagne à être connu. Mais il partira tout à coup, vous verrez. Il me l'a, ma foi, dit lui-même.
Vraiment ? Cria Dolly d'une voix faible. Vraiment ?
Est-ce le thé qui vous chatouille encore le gosier, cher enfant ? Dit le serrurier.
Mais avant que sa fille eût pu lui répondre, elle fut prise d'une toux importune, d'une espèce de toux si désagréable que l'accès fini, des larmes sortaient de ses beaux yeux. Le bon serrurier était encore à lui donner de petites tapes sur le dos et à lui prodiguer de doux remèdes de même nature, lorsqu'on reçut un message de Madame Varden. Elle faisait savoir à tous ceux que cela pouvait intéresser qu'elle se sentait beaucoup trop indisposée pour se lever après l'agitation et l'anxiété de la nuit précédente, qu'en conséquence elle désirait qu'on lui procurât immédiatement la petite théière noire avec du bon thé bien fort, une demi-douzaine de rôtis beurrés, une platée raisonnable de bœuf et de jambon en tranches minces et le manuel protestant en 2 volumes in 12. Comme quelques autres dames qui, dans les âges reculés, fleurirent sur ce globe, Madame Varden était d'autant plus dévote qu'elle était de moins bonne humeur. Chaque fois qu'elle et son mari se trouvaient contre l'habitude en mésintelligence, le manuel protestant reprenait tout de suite faveur. Sachant par expérience ce que cette requête voulait dire, le triumvirat dut se dissoudre. Dolly alla faire exécuter en toute hâte les ordres de sa mère, Gabriel monta dans sa carriole pour aller dehors vaquer à quelque affaire, et Sim retourna à sa besogne journalière dans l'atelier, toujours avec ses gros yeux fixes, quoique le pain de 4 livres restât derrière lui sur la table. Que dis-je ? Ses gros yeux grossirent encore, et lorsqu'il eut noué son tablier, ils étaient gigantesques. Ce ne fut pas avant de s'être plusieurs fois promené de long en large, les bras croisés en faisant les plus grandes enjambées qu'il pouvait faire, et d'avoir écarté à coups de pied une foule de menus objets, que ses lèvres commencèrent à onduler. Enfin, une sombre dérision parut sur ses traits, et il sourit, et en même temps, il proféra avec un mépris suprême le monosyllabe « Joe ». Je l'ai joliment fasciné avec mon œillade pendant qu'il parlait de ce garçon, dit-il. Voilà maintenant ce qui l'a rendu si confuse. Joe. Il se repromena de long en large, plus vite encore, et s'il est possible, avec de plus grandes enjambées, s'arrêtant quelquefois pour regarder un peu ses jambes, quelquefois pour éjaculer avec un geste terrible un autre Joe. Au bout d'un quart d'heure ou environ, il reprit le bonnet de papier et il essaya de travailler. Non, il ne pouvait venir à bout de rien faire. « Je ne ferai rien aujourd'hui, » dit M. Tapertit en jetant par terre son ouvrage, « que repasser. Je vais repasser tous les outils. Le métier de rémouleur va mieux à mon humeur. »« Joe !» Ouir ! La meule fut bientôt en mouvement. On vit jaillir une pluie d'étincelles. C'était l'occupation qu'il fallait à son esprit effervescent. « Ouir ! » « Ça ne se passera pas comme ça, » dit M. Tapertit, s'arrêtant d'un air de triomphe et essuyant sur sa manche sa figure échauffée. « Ça ne se passera pas comme ça. Je désire qu'il n'y ait pas de sang répandu. » Oui. Chapitre 5. Aussitôt qu'il eut terminé les affaires du jour, le serrurier sortit seul pour visiter le gentleman blessé et s'assurer des progrès de son rétablissement. La maison où il l'avait laissé était dans une rue détournée de Southwark, non loin de London Bridge, et ce fut là qu'il se dirigea de toute sa vitesse, bien décidé à s'y arrêter le moins possible et à revenir se coucher de bonne heure. La soirée était tempétueuse, presque autant que celle de la veille. Un homme solide comme Gabriel avait de la peine à rester sur ses jambes au coin des rues ou à tenir tête au vent qui se montrait parfois le plus fort et le repoussait en arrière de quelques pas ou, malgré toute son énergie, le forçait de s'abriter sous une voûte à l'entrée de quelques maisons jusqu'à ce que la bourrasque eût épuisé sa furie. De temps en temps, un chapeau ou une perruque ou l'un et l'autre arrivaient en filant et roulant, en gambadant devant lui follement, tandis que le spectacle plus sérieux de tuiles et d'ardoises qui tombaient, ou de masses de briques, ou de mortiers, ou de morceaux de pierre de couronnement qui résonnaient sur le trottoir tout à côté de lui et se brisaient en mille éclats, n'augmentait pas le charme de son expédition et ne rendait pas la route moins effrayante. « Ce n'est pas amusant pour un homme de mon âge de faire une visite par une telle soirée, » dit le serrurier en frappant doucement à la porte de la veuve. « J'aimerais mieux être dans l'encoignure de la cheminée du vieux John, ma parole. » « Qui est là ?» demanda du dedans une voix de femme. On lui répondit, elle ajouta vite un mot de bienvenue, et la porte fut promptement ouverte. Cette femme avait environ 40 ans, peut-être 2 ou 3 ans de plus, une physionomie riante et une figure qui autrefois avait été jolie. Elle portait des traces d'affliction et d'inquiétude, mais des traces déjà anciennes. Le temps les avait lissées. Quiconque n'avait accordé par hasard qu'un simple coup d'œil à Barnabé aurait reconnu que cette femme était sa mère. Leur ressemblance était frappante, mais là où le visage du fils offrait l'égarement et le vide de la pensée, il y avait chez sa mère ce calme patient qui est le résultat de longs efforts et d'une paisible résignation. Une seule chose dans sa figure était étrange et saisissante. Vous ne pouviez pas la regarder au milieu de son humeur la plus joyeuse sans la reconnaître capable à un degré extraordinaire d'exprimer la terreur. Ce n'était point à la surface, ce n'était pas non plus particulièrement dans un de ses traits, vous ne pouviez prendre ni les yeux, ni la bouche, ni les lignes de la joue et dire en les détaillant que cela tenait à quelqu'un d'eux pris à part. Il y avait plutôt dans l'ensemble, je ne sais où, en embuscade, quelque chose qu'on ne voyait jamais que d'une manière obscure, mais qui était toujours là sans s'absenter jamais une minute. C'était l'ombre la plus faible, la plus fugitive de quelque regard, expression soudaine, enfantée sans doute par un mouvement rapide d'intense et inexprimable horreur. Mais si vague et faible que fût cette ombre,
elle faisait deviner ce que cette expression avait dû être et la fixait dans l'esprit comme l'image d'un mauvais rêve. Plus faible, plus chétive, manquant de force et d'énergie, pour ainsi dire, à raison des ténèbres de son intelligence, la même empreinte s'était gravée dans la physionomie du fils. Si on avait vu cela dans un portrait, on aurait demandé la légende, on aurait pu regarder la toile sans être obsédé par une curiosité pénible. Les personnes qui connaissaient l'histoire de l'arbre de mai et se souvenaient de ce qu'était la veuve avant l'assassinat de son mari et de son maître n'avaient pas besoin d'explication. Outre la façon dont la malheureuse avait changé, on se rappelait que quand son fils était né, le jour même où l'on avait su la nouvelle du double meurtre, il portait sur son poignet une marque semblable à une tache de sang mal effacée. « Dieu vous garde, voisine, » dit le serrurier en la suivant de l'air d'un vieil ami dans une petite salle à manger où brûlait un bon feu. « Et vous, pareillement, » répondit-elle avec un sourire, « c'est votre excellent cœur qui vous a ramené ici. Rien ne peut vous retenir chez vous, je le sais de longue date, s'il y a des amis à servir ou à consoler au dehors. » « Fi, fi, » répliqua le serrurier en se frottant les mains et les réchauffant, « voilà bien les femmes, il ne leur faut pas grand-chose pour jaser. Comment va le malade, voisine ?» Il dort maintenant, il a été très agité vers le jour, et pendant quelques heures il s'est tourné et retourné douloureusement. Mais la fièvre l'a quitté, et le médecin dit qu'il sera bientôt guéri. Défense de le transporter avant demain. « Il a eu des visites aujourd'hui, hein ?» dit Gabriel avec finesse. « Oui, monsieur Chester, père, est resté ici depuis que nous l'avons envoyé prévenir, et il ne faisait que de partir quand vous avez frappé. » « Pas de dame ?» dit Gabriel en haussant les sourcils et d'un air désappointé. « Une lettre, » reprit la veuve. « Allons, ça vaut mieux que rien, » cria le serrurier. « Qui en était porteur ?»« Barnabé, naturellement. »« Barnabé est un bijou, » dit Varden. « Il va et vient à son aise, là où nous autres, qui nous croyons plus raisonnables que lui, serions fort embarrassés d'en faire autant. Il n'est pas à courir encore, j'espère. Dieu merci, il est dans son lit. Comme il a été debout toute la nuit, vous savez, toute la journée sur pied, il était rompu de fatigue. » « Ah, voisin, si je pouvais seulement le voir plus souvent aussi tranquille, si je pouvais seulement dompter cette terrible inquiétude. »« Cela viendra, » dit le serrurier avec bonté, « cela viendra, ne vous laissez pas abattre. Je trouve qu'il gagne en raison chaque jour. » La veuve secoua la tête, et cependant, bien qu'elle sût que le serrurier cherchait à l'encourager et qu'il ne parlait pas ainsi de conviction, elle éprouvait de la joie à entendre même cet éloge de son pauvre Benet de fils. « Il finira par faire un homme d'esprit, » continua le serrurier. « Prenez garde que quand nous deviendrons de vieux radouteurs, Barnabé ne nous fasse la nique. Je ne vous dis que ça. » Mais notre autre ami, ajouta-t-il en regardant sous la table et autour du plancher, « le plus fin matois de tous les matois, où donc est-il ? » ?»«
Dans la chambre de Barnabé, » répliqua la veuve avec un sourire languissant. « Ah, c'est celui-là qui est un rusé compère, » dit Varden en secouant la tête.
Je serais bien fâché de parler de choses secrètes devant lui. Ah, c'est ça, un fameux gaillard. Je parie qu'il pourrait lire, écrire et compter s'il voulait s'en donner la peine. Qu'est-ce que j'entends là ? N'est-ce pas lui qui tape à la porte ?
Non, répondit la veuve, c'était dans la rue, je pense. Écoutez, oui, encore ce bruit. Il y a quelqu'un qui frappe doucement au volet. Qui se peut-il être ?
Ils avaient parlé à voix basse, car le malade était couché au-dessus. Et comme les murs et les plafonds étaient minces et légèrement bâtis, le son de leur voix aurait, sans cette précaution, troublé son sommeil. La personne qui frappait, quelle qu'elle fût, avait pu se tenir fort près du volet sans rien entendre, et voyant la lumière à travers les fentes, sans aucun bruit, elle avait bien pu croire qu'il n'y avait là qu'une seule personne.
« Quelque brigand de voleurs, peut-être ?» dit le serrurier. « Donnez-moi la lumière. »«
Non, non, » répondit-elle précipitamment, « de tels visiteurs ne sont jamais venus à ce pauvre logis. Restez ici. » Je suis toujours à même de vous appeler en cas de besoin. Je préfère y aller seul.
« Pourquoi ?» dit le serrurier, laissant à contre-cœur la chandelle qu'il avait prise de dessus la table.
« Parce que je ne sais pourquoi, mais c'est plus fort que moi, » répondit-elle. « On frappe encore. Ne me retenez pas, je vous en supplie. »
Gabriel la regarda, grandement étonné de voir une personne d'ordinaire si calme et si tranquille, en proie à une pareille agitation, et pour si peu de choses, elle quitta la chambre et ferma la porte derrière elle. Un moment, elle resta là, comme si elle hésitait, sa main sur la serrure. Dans ce court intervalle, il eut encore un petit coup donné et une voix tout près de la fenêtre, une voix dont le souvenir parut réveiller chez lui des idées désagréables, chuchota « Dépêchez-vous ». Ces mots furent prononcés à voix basse, mais distinctement de cette voix qui arrive si vite aux oreilles de ceux qui dorment et qui les réveille en sursaut, Un instant, cela fit tressaillir le serrurier. Il se recula involontairement de la fenêtre et écouta. Le vent grondant lourdement dans la cheminée ne lui permit pas trop d'entendre ce qui se passa. Mais il aurait affirmé que la porte de la rue avait été ouverte, que le pas d'un homme avait fait craquer le plancher, puis qu'il y avait eu un moment de silence. Silence interrompu par quelque chose d'étouffé qui n'était ni un cri perçant, ni un gémissement, ni un appel au secours, et qui cependant aurait pu être tout cela également. Et les mots « Mon Dieu » prononcés d'une voix qu'il n'avait pas entendue sans un frisson. Il s'élança aussitôt dehors. Enfin, il la vit, cette terrible expression, celle qu'il connaissait si bien pour l'avoir devinée, sans l'avoir vue auparavant sur la figure de la veuve. Elle était là, debout, comme gelée sur le sol, les yeux effarés, les joues livides, chaque trait d'une fixité lugubre à regarder l'homme qu'il avait rencontré dans la sombre nuit de la veille. Les yeux de cet homme se croisèrent avec ceux du serrurier. Cela ne fut qu'un éclair, un instant, un souffle sur une glace polie, et il n'était plus là. Le serrurier allait l'atteindre, et il avait presque saisi les pans de sa redingote flottante quand ses bras furent étroitement serrés par la veuve qui se jeta sur le pavé devant lui. « de l'autre côté » cria-t-elle. « Il a pris de l'autre côté. Revenez, revenez !»« De l'autre côté, je le vois maintenant, » répondit le serrurier. « Là-bas, voici son ombre qui passe. Où est cette lumière ? Que fait cet homme ? Qui est-il ? Laissez-moi courir après lui. Revenez, revenez !» s'écria la femme, luttant avec lui et l'étreignant dans ses bras. « Ne le touchez pas, au nom de votre salut. Je vous en adjure, revenez ! Il emporte d'autres vies que la sienne. Revenez !»« Que voulez-vous dire ? Inutile de savoir ce que je veux dire. Ne demandez rien, n'en parlez plus, n'y pensez plus. Il ne faut pas qu'on le suive, qu'on lui fasse obstacle, qu'on l'arrête. Revenez !» Le vieillard la regarda tout ébahi au moment où elle se tordait pour s'attacher à lui, et vaincu par sa douleur impétueuse, il se laissa entraîner dans la maison. Ce ne fut pas avant d'avoir mis la chaîne, fermé la porte à double tour, assuré chaque verrou et chaque barre avec l'ardeur furieuse d'une folle, et l'avoir tiré en arrière dans la chambre, qu'elle dirigea de nouveau sur lui ce regard de statue plein d'horreur, et que, s'affaissant sur une chaise, elle se couvrit la figure et frissonna comme si la main de la mort était sur elle.
Chapitre 6. Étonné à l'excès des événements qui s'étaient passés avec tant de rapidité et de violence, le serrurier contempla cette femme qui frissonnait sur sa chaise de l'air d'un homme hébété. Il l'aurait contemplée beaucoup plus longtemps si la compassion et l'humanité n'eussent délié sa langue. « Vous êtes malade, » dit Gabriel. « Laissez-moi appeler quelques voisines. » « Non, pour rien au monde, » répondit-elle en lui faisant signe de sa main tremblante et tenant sa figure encore détournée. « C'est bien assez que vous vous soyez trouvé ici pour voir cela. »« Oui, plus qu'assez, c'est trop ou trop peu, » dit Gabriel. « Soit, » répliqua-t-elle, « comme vous voudrez, pas de questions, je vous en supplie. »« Voisine, » dit le serrurier après une pause, « est-ce raisonnable, est-ce juste envers vous-même ? Est-ce digne de vous, qui me connaissez depuis si longtemps et m'avez demandé conseil pour toutes sortes de choses, digne de vous, à qui j'ai connu l'esprit vigoureux et le cœur ferme quand vous n'étiez encore qu'une enfant ? J'en ai eu grand besoin, répondit-elle. Je vieillis à la fois par les années et par les inquiétudes. C'est peut-être là une trop rude épreuve qui m'a énervé le cœur et affaibli l'esprit. Ne me parlez pas. Comment puis-je voir ce que j'ai vu et me taire ? Répartit le serrurier. Quel était cet homme ? Et pourquoi sa venue a-t-elle produit en vous ce changement ? Elle demeura silencieuse, mais se cramponna à la chaise comme pour s'empêcher de choir par terre. « Je m'autorise d'une ancienne connaissance, Marie, » dit le serrurier, « car j'ai toujours eu la plus vive affection pour vous, et peut-être ai-je essayé de vous le prouver quand ça m'a été possible. Quel est cet homme de mauvaise mine ? Et qu'a-t-il à faire avec vous ? Quel est ce fantôme qu'on ne voit que par les nuits les plus noires et par de mauvais temps ? Comment connaît-il et pourquoi vient-il hanter cette maison, chuchotant à travers les fentes et les crevasses, comme s'il y avait entre lui et vous quelque chose dont ni l'un ni l'autre n'oserait parler tout haut ? Qui est-il ?
Vous avez bien raison de dire qu'il hante cette maison, répliqua la veuve d'une voix languissante. Son ombre a plané sur elle et sur moi, dans la lumière et dans les ténèbres, à midi et à minuit. Et maintenant, enfin, le voilà revenu, en chair et en os.
Mais il ne serait pas parti, en chair et en os, répliqua le serrurier avec quelque irritation, si vous aviez laissé libres mes bras et mes jambes. Quelle énigme est ceci ?
C'en est une, répondit-elle, et en même temps elle se leva, qui doit rester à jamais une énigme. Je n'ose pas vous en dire davantage.
Vous n'osez pas, répéta le serrurier, confondu de surprise.
Ne me pressez point, je suis malade et faible, et toutes mes facultés vitales semblent mortes au-dedans de moi. Non, ne me touchez point, non plus.
Gabriel, qui s'était avancé de quelques pas pour la secourir, recula lorsqu'elle fit cette exclamation précipitée et la regarda en silence avec un profond étonnement.
« Laissez-moi aller seul, dit-elle à voix basse, et que les mains d'un honnête homme ne touchent pas les miennes ce soir. »
Quand elle eut marché en chancelant vers la porte, elle se retourna et ajouta avec un violent effort «
N'oubliez pas que ceci est un secret, qu'il faut de toute nécessité que je confie à votre honneur. Vous êtes un homme sûr, comme vous avez toujours été bon et affectueux pour moi, gardez-le. Si vous entendez quelque bruit là-haut, excusez mon absence, imaginez quelque prétexte, dites n'importe quoi, sauf ce que vous avez vu en réalité, et que jamais un mot, un regard entre nous ne rappelle cette circonstance. Je me fie à vous. Songez-y, je me fie à vous. Et jusqu'où va ma confiance en vous, jamais vous ne pourriez le concevoir. »
Fixant ses yeux sur lui un instant, elle s'éloigna et le laissa seul dans la chambre. Gabriel, ne sachant que penser, se tenait debout, l'œil fixé sur la porte. Son visage était plein d'étonnement et d'épouvante. Plus il méditait sur ce qui venait de se passer, moins il pouvait y donner quelque explication favorable. Trouver cette femme veuve, dont la vie avait été supposée pendant tant d'années une vie de solitude et de retraite, et qui, par sa paisible résignation à ses douleurs, avait gagné l'estime et le respect de tous ceux qui la connaissaient, la trouver liée mystérieusement avec un homme sinistre, s'alarmant de son apparition, et pourtant l'aidant à s'échapper, c'était une découverte qui le peinait autant qu'elle l'effrayait. La pleine confiance qu'elle venait de montrer dans sa discrétion et le consentement tacite qu'il y avait donné augmentaient la détresse de son esprit. S'il lui parlait hardiment, s'il eût persisté à la questionner, s'il l'eût retenue quand elle s'était levée pour quitter la chambre, s'il eût fait une protestation quelconque au lieu de se compromettre lui-même par son silence, comme il sentait bien s'être compromis, il aurait été plus à son aise. « Pourquoi lui ai-je laissé dire que c'était un secret et qu'elle me le confiait ?» dit Gabriel en mettant sa perruque sur un côté de sa tête pour se gratter d'une manière plus commode et regardant le feu avec tristesse.
Je n'ai pas plus de présence d'esprit que le vieux John lui-même. Pourquoi ne lui ai-je pas dit d'un ton ferme « Vous n'avez pas le droit d'avoir de tels secrets et je vous somme de me dire ce que cela signifie » au lieu de rester bouche béante devant elle, comme un vieil imbécile que je suis. Mais c'est bien là mon faible. Je sais, au besoin, me résister obstinément à des hommes, mais des femmes peuvent, quand elles le veulent, me rouler autour de leurs doigts comme le fil de leur quenouille. »
Il ôta tout à fait sa perruque et, faisant cette réflexion, chauffa au feu son mouchoir et commença de s'en frotter et polir sa tête chauve jusqu'à ce qu'elle redevint luisante.
« Et cependant, dit le serrurier, que calmait cette douce opération et qui s'arrêta pour sourire, ce n'est peut-être rien. Quelque braillard d'ivrogne qui s'est forcé d'entrer dans la maison, il n'en faudrait pas davantage pour alarmer une âme aussi tranquille que la sienne. Mais alors, et cette pensée le tourmentait, comment se fait-il que ce soit cet homme? Comment se fait-il qu'il ait cette influence-là sur elle? Comment se fait-il qu'elle l'ait aidé à m'échapper? Et plus que tout cela, comment se fait-il qu'elle ne m'ait pas dit que c'était une peur soudaine et rien de plus ?
Triste chose que d'avoir en une minute à se défier d'une personne qu'on connaît depuis si longtemps et d'une ancienne bonne amie par-dessus le marché. Mais le moyen de ne pas le faire lorsque tout cela vous frappe l'esprit.
Est-ce Barnabé qui arrive là ?
Oui, cria-t-il en jetant un regard dans la chambre et faisant un signe de tête. Sans doute, c'est Barnabé. Comment l'avez-vous deviné ?
« Par votre ombre, dit le serrurier.
Oh, cria Barnabé en lançant un coup d'œil par-dessus son épaule, elle est bonne enfant, cette ombre, de s'attacher à moi, quoique je ne sois qu'un insensé. Quel joyeux compagnon! Nous sautons, nous nous promenons, nous courons, nous gambadons si bien sur l'herbe ensemble. Quelquefois, il est la moitié aussi haut qu'un clocher d'église, et quelquefois, pas plus grand qu'un nain. Tantôt, il va devant, tantôt derrière, et tout de suite, il se dérobe avec adresse. Le voilà par ici, le voilà par là, s'arrêtant lorsque je m'arrête, et croyant que je ne peux pas le voir, quoique j'ai l'œil sur lui, bel et bien. Ah, c'est un joyeux compagnon! Dites-moi, est-il insensé aussi? Je crois qu'il l'est.
Pourquoi? Demanda Gabriel.
Parce qu'il ne se lasse jamais de se moquer de moi. Il ne fait que cela tout le long de la journée. Pourquoi ne venez-vous pas?
Où?
Là-haut. Il vous demande. Restez. À propos, et lui, où est son ombre? Voyons, vous qui êtes un homme raisonnable, dites-moi ça.
À côté de lui, Barnabé. À côté de lui, je suppose, répondit le serrurier.
« Non, répliqua-t-il en secouant la tête, devinez encore.
Elle est allée se promener, peut-être bien.
Il a changé d'ombre avec une femme,
chuchota l'idiot à son oreille, et puis il recula d'un air de triomphe.
Son ombre à elle, elle est toujours avec lui, et son ombre à lui, toujours avec elle. C'est un jeu, je pense, hein ?»«
Barnabé, dit le serrurier d'un air grave, venez ici, mon garçon. » »«
Oh, je sais ce que vous voulez me dire, je sais !» répliqua-t-il en s'éloignant de lui. « Mais je suis un malin, je me tais. Je ne vous dis qu'une chose, êtes-vous prêt ?»
En achevant ces mots, il saisit la lumière et l'agita sur sa tête avec un rire égaré.
« Doucement, du calme !» dit le serrurier, déployant toute son influence pour le maintenir calme et paisible. « Je croyais que vous étiez allé dormir. »«
Voilà comme je dormais !» répondit-il les yeux démesurément ouverts. Il y avait de grandes figures allant et venant tout près de ma figure, et ensuite, un mille plus loin, des endroits bas à travers lesquels il fallait ramper, bon gré, mal gré, de hautes églises du fait desquelles il fallait tomber, une foule d'étranges créatures se pressant les unes contre les autres, de la tête aux pieds, pour s'asseoir sur le lit. C'est dormir cela, hein ?
Des rêves, Barnabé, des rêves, dit le serrurier,
des rêves ! Répéta-t-il doucement en s'approchant de lui.
« Qu'est-ce donc ? Répliqua le serrurier, si ce ne sont pas des rêves. »
« Je rêvais, dit Barnabé, en passant son bras dans le bras de Vardenne et en regardant de fort près sa figure, tandis qu'il lui chuchotait sa réponse,
« je rêvais précisément tout à l'heure que quelque chose, cela avait la forme d'un homme, me suivait, venait sans bruit derrière moi, ne voulait pas me laisser, mais était toujours à se cacher et à se tapir, comme un chat dans des coins noirs, et à attendre mon passage. Alors, cela sortait en rampant, et cela venait sans bruit derrière moi. M'avez-vous jamais vu courir ?
Plus d'une fois, vous le savez bien.
Jamais vous ne m'avez vu courir comme je l'ai fait dans ce rêve. Cela se mit à ramper encore pour me harceler. Plus près, plus près, plus près. Je courus plus vite, je sautai, je m'élançai hors du lit, et vers la fenêtre, et là, dans la rue, en bas. Mais il nous attend, venez-vous.
Quoi, dans la rue, en bas, cher Barnabé ? Dit Vardenne, s'imaginant découvrir quelque rapport entre cette vision et ce qui s'était passé tout à l'heure. Barnabé le regarda fixement, marmotta des paroles incohérentes, agita de nouveau la lumière sur sa tête, rit, et, serrant le bras du serrurier contre le sien d'une manière plus étroite, le conduisit à l'étage supérieur en silence. Ils entrèrent dans une chambre à coucher des plus simples, garnie de quelques chaises dont les pieds en fuseau donnaient la date de leur naissance. Le reste de l'ameublement n'avait pas grande valeur, mais il était tenu avec beaucoup de propreté. Dans une bergère, devant le feu, pâle et affaibli par une perte de sang considérable, était penché Edward Chester, le jeune gentleman qui avait le premier quitté l'arbre de mai durant la soirée précédente. Il tendit la main au serrurier et lui souhaita la bienvenue comme à son sauveur et à son ami.
« Ne me remerciez pas davantage, monsieur, ne me remerciez pas davantage, dit Gabriel. J'en aurais fait au moins autant, j'espère, pour n'importe qui dans une position si critique, et à plus forte raison, pour vous, monsieur. Il y a, de par le monde, certaines demoiselles, ajouta-t-il avec quelque hésitation,
qui a été plus d'une fois pleine de bonté pour nous. Et naturellement, nous en avons de la reconnaissance. J'espère, monsieur, que ce que je dis là ne vous offense pas. »
Le jeune homme sourit et secoua la tête. Il fit en même temps un mouvement sur sa chaise, comme s'il eût souffert.
« Ce n'est presque rien, » dit-il en réponse au regard d'intérêt du serrurier. « Un pur malaise qui provient au moins autant de l'ennui d'être claquemuré ici que de ma légère blessure ou du sang que j'ai perdu. Veuillez vous asseoir, monsieur Varden. »
« Si ce n'est pas trop hardi de ma part, monsieur Edouard, de m'appuyer sur votre fauteuil, »
répliqua le serrurier, faisant comme il disait et se penchant par-dessus lui, « je resterai debout.
Ce sera plus commode pour parler bas. »
Barnabé n'est pas dans son humeur la plus calme ce soir, et en pareil cas, la conversation ne lui fait jamais de bien. Tous deux jetèrent un coup d'œil sur l'objet de cette observation. Il avait pris un siège de l'autre côté du feu, et, avec son sourire insignifiant, s'occupait à emmêler sur ses doigts un écheveau de fil. « Je vous prie, monsieur, de me raconter exactement, » dit Varden en parlant plus bas encore, « ce qui vous est arrivé hier soir. »
« J'ai des motifs pour m'en informer. Quand vous quittâtes l'arbre de mai, vous étiez seul. Et je poursuivis seul ma route jusqu'à ce que je fusse parvenu à l'endroit où vous m'avez trouvé. Là, j'entendis le galop d'un cheval. «
Derrière vous, » dit le serrurier, « oui, en effet, derrière moi, c'était un cavalier seul qui bientôt m'atteignit et, arrêtant son cheval, me demanda la route de Londres. »
« Vous étiez sur vos gardes, monsieur, sachant qu'une foule de voleurs de grand chemin bat le pays dans toutes les directions, » dit Varden.
« J'étais sur mes gardes, mais je n'avais qu'une cravache, ayant eu l'imprudence de laisser mes pistolets dans leur fonte au fils de l'aubergiste. J'indiquai à ce cavalier son chemin. Avant que mes paroles fussent sorties de mes lèvres, il se précipita sur moi d'un élan furieux, comme s'il eût voulu me fouler à terre sous les sabots de son cheval. En me jetant de côté, je glissai et je tombai. Vous m'avez ramassé là avec ce coup de poignard et une ou deux vilaines contusions, et sans ma bourse, dans laquelle il aura trouvé peu de choses pour ses peines. Et maintenant, monsieur Varden, » ajouta-t-il en donnant au serrurier une poignée de main, « sauf toute l'étendue de ma gratitude envers vous, vous en savez autant que moi. »
« Si ce n'est, » dit Gabriel en se penchant encore davantage et regardant avec précaution leur silencieux voisin, « si ce n'est en ce qui concerne le voleur lui-même. » « À quoi ressemblait-il, monsieur ? Parlez bas, s'il vous plaît. Barnabé n'y entend pas malice, mais je l'ai observé plus souvent que vous, et je sais, quoique vous ne le supposiez guère, qu'il nous écoute en ce moment. »
Il fallait une extrême confiance dans la véracité du serrurier pour faire croire à n'importe qui ce qu'il avançait là, car tous les sens et toutes les facultés de Barnabé paraissaient absorbés par son écheveau de fil à l'exclusion de tout autre objet.
Le jeune homme en laissa percer quelque chose sur sa figure, car Gabriel lui répéta ce qu'il venait de dire, et avec plus d'insistance que la première fois, puis lançant un nouveau coup d'œil vers Barnabé, il demanda de nouveau au blessé à quoi ressemblait l'homme.
« La nuit était si sombre, » dit Edouard, « l'attaque fut si soudaine, il était tellement enveloppé, emmitouflé, que je pus à peine établir une ressemblance. Je trouve que...
« Ne le nommez pas, monsieur, » interrompit le serrurier en suivant son regard vers Barnabé. « Je sais qu'il l'a vu. J'ai besoin de savoir ce que vous avez vu, vous. »«
Tout ce que je me rappelle, » dit Edouard, « c'est que quand il arrêta son cheval, son chapeau fut enlevé par un coup de vent. Il le rattrapa et le remit sur sa tête. Je remarquai qu'elle était ceinte d'un foulard noir. Il y a un étranger qui est entré à l'arbre de mai pendant que j'y étais. Je ne l'ai pas vu parce que je me tenais à l'écart pour des raisons personnelles. » Et lorsque je me levai afin de quitter la salle et que je jetai un regard autour de moi, il était dans l'ombre de la cheminée et caché à mes yeux. Mais si cet étranger et le voleur étaient deux personnes différentes, leur voix avait une ressemblance extraordinaire. Car sitôt que l'homme m'adressa la parole sur la route, je reconnus son accent et son langage.
C'est bien ce que je craignais. L'homme même qui était là ce soir, pensa le serrurier en changeant de couleur. Quelle ténébreuse affaire que tout ceci!
« Hola !»
lui cria aux oreilles une voix rauque.
« Hola, hola, hola !»« Cac-sac-sa ! Hola !»
L'interlocuteur, qui fit tressaillir le serrurier comme si c'eût été quelque être surnaturel, était un grand corbeau qui s'était perché au sommet de la bergère sans être vu de Varden ou d'Edouard
et qui écoutait avec une attention polie et la plus singulière prétention de comprendre chaque mot tout ce qui avait été dit jusqu'à ce moment, tournant sa tête de l'un à l'autre, comme s'il était appelé là pour juger leur cas, et qu'il fût de la dernière importance qu'il ne perdît pas un mot de l'affaire. « Regardez-le !» dit Varden, partagé entre son admiration pour l'oiseau et une sorte de crainte qu'il semblait en avoir. « Avez-vous jamais vu un lutin plus rusé ? Oh, c'est un terrible compère !» Le corbeau, dont la tête était toute penchée d'un côté et dont l'œil étincelait comme un diamant, garda un silence pensif pendant quelques secondes, puis il répliqua d'une voix si rauque et si lointaine qu'elle paraissait plutôt venir à travers son épais plumage que de son bec et de son gosier.
« Hola, 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 cac, sac, ça, oh les cœurs, n'aie pas peur, oh, oh, oh. Je suis un démon, je suis un démon, je suis un démon, hurrah !»
Et alors, comme si son rôle infernal le transportait de bonne heure, il se mit à siffler. « Je crois, ma parole d'honneur, qu'il sait ce qu'il dit. Je vous jure que je le crois, » reprit Varden. « Voyez-vous de quelle façon il me regarde, comme s'il savait aussi ce que je viens de dire. » À cela, l'oiseau, se balançant en quelque sorte sur la pointe du pied et remuant son corps en haut et en bas comme pour une espèce de danse grave, repartit.
« Je suis un démon ! Je suis un démon ! Je suis un démon !»
et fit battre ses ailes contre ses flancs comme s'il crevait de rire. Barnabé claqua des mains et se roula tout bonnement sur le plancher dans un accès d'enthousiasme et de joie. « D'étranges camarades, monsieur, » dit le serrurier en secouant la tête tandis que son regard allait de l'un à l'autre, « c'est l'oiseau qui a tout l'esprit. »« Étrange vraiment, » dit Édouard, présentant son doigt au corbeau qui, en reconnaissance de ce geste amical, plongea aussitôt pour le saisir de son bec de fer. « Est-il âgé ?»«
C'est un enfant, » répliqua le serrurier, « 120 ans ou environ. Barnabé, mon ami, appelez-le pour qu'il descende. »«
L'appeler ?» répéta Barnabé, se dressant sur son séant au milieu du plancher et regardant Gabriel d'un air hébété, en même temps qu'il rejeta en arrière ses cheveux épars sur son visage. « Mais qui donc le ferait venir à volonté ? C'est lui qui m'appelle et me fait venir où il veut. » Il marche devant, et moi, à sa suite, il est le maître, et je suis le domestique. Est-ce la vérité, Grippe ?
Le corbeau fit entendre une sorte de croassement court, confortable, confidentiel, un croassement très expressif qui semblait dire « Vous n'avez pas besoin d'initier ces gens-là à nos secrets. Nous nous comprenons bien tous deux, ça suffit. »
« Moi, le faire venir ! » cria Barnabé en montrant l'oiseau, « lui qui ne dort jamais. C'est tout au plus il cligne des yeux. Mais n'importe à quel instant de la nuit, vous pourriez voir ses yeux dans l'obscurité de ma chambre comme deux étincelles. Chaque nuit, et tant que la nuit dure, il est bien éveillé, allez, et il se parle à lui-même en pensant à ce qu'il fera le lendemain et où nous irons et à ce qu'il volera, cachera, enfouira. Moi, le faire venir.
Changeant d'idée, le corbeau parut disposé à descendre de lui-même. Après un rapide examen du plancher et quelques regards obliques jetés au plafond et sur chacun des assistants à tour de rôle, il voltigea en bas et alla vers Barnabé, non point en sautant, ni en marchant, ni en courant, mais du pas d'un élégant prétentieux qui, avec des bottes excessivement étroites, essaye de passer bien vite sur de petites pierres qui roulent sous ses pieds. Puis, montant sur la main que lui avait tendue Barnabé et consentant à se tenir au bout de son bras, il fit entendre une série de sons assez comparables au glou-glou de longs bouchons tirés de quelques douzaines de bouteilles, après quoi il confirma de nouveau, d'une voix fort distincte, que sa naissance et son parentage infernal sentaient le roussi. Le serrurier secoua la tête, peut-être parce qu'il ne savait pas trop si cette créature n'était pas réellement autre chose qu'un oiseau, peut-être parce qu'il s'apitoyait sur Barnabé, qui tenait pendant ce temps-là le corbeau entre ses bras et se roulait avec lui sur le plancher. Lorsqu'il leva ses yeux de dessus le pauvre garçon, il rencontra ceux de sa mère. Elle était entrée dans la chambre et regardait en silence. Sa figure était toute pâle, même ses lèvres,
mais elle avait dominé son émotion et rendu à son regard son calme habituel. Varden s'imagina que, lorsqu'il lui lança un coup d'œil, elle s'était cachée de sa vue et que, pour mieux l'éviter, elle s'occupait du jeune blessé. « Il était temps qu'il se couchât, disait-elle. Il devait être transporté chez lui le lendemain et il avait déjà dépassé d'une grande heure le temps où il pouvait être levé. » Sur cette insinuation, le serrurier se prépara à prendre congé. « À propos, dit Édouard en lui donnant une poignée de main et en promenant ses regards de Varden à la veuve et de la veuve à Varden, quel bruit y avait-il donc en bas? J'ai entendu votre voix au milieu de ce tapage et je vous eusse fait cette question auparavant si notre autre conversation ne m'avait pas fait passer cela de la mémoire. Qu'était-ce donc? » Le serrurier le regarda et se mordit la lèvre. Elle s'appuya contre la bergère et fixa ses yeux vers le plancher. Barnabé aussi écoutait. « Quelque fou, monsieur, ou quelque ivrogne, » dit enfin Varden, regardant fixement la veuve pendant qu'il parlait. « Il s'était trompé de maison, et il voulait entrer ici comme chez lui. » Elle respira plus librement, mais resta debout dans une complète immobilité. Lorsque le serrurier souhaita le bonsoir et que Barnabé leva la chandelle pour l'éclairer jusqu'au bas de l'escalier, elle la lui prit et lui ordonna, peut-être avec plus de hâte et de vivacité que n'en comportait une si légère circonstance, de ne pas bouger. Le corbeau les suivit pour avoir la satisfaction de constater si tout était en bas comme il fallait, et quand ils eurent atteint la porte de la rue, il resta sur la dernière marche, faisant entendre d'innombrables glouglous de bouteilles qu'on débouche. D'une tremblante main, elle détacha la chaîne, poussa en dehors le verrou et tourna la clé. Comme elle avait sa main sur le loquet, le serrurier lui dit à voix basse « J'ai fait ce soir un mensonge en votre faveur, Marie, et en faveur des temps passés et de nos anciennes relations. J'aurais dédaigné d'en faire autant pour mon propre compte. J'espère n'avoir pas fait de mal, ni causé de mal à personne. Je ne peux écarter les soupçons que vous m'avez donnés malgré moi, et c'est avec répugnance, je vous le dis franchement, que je laisse M. Édouard ici. » Prenez garde qu'il ne lui arrive aucun mal. La sûreté de ce toit m'est suspecte, et je me réjouis de savoir qu'il s'en éloignera bientôt. Maintenant, laissez-moi sortir. » Un moment, elle cacha sa figure dans ses mains et pleura, mais, résistant à l'impétueux besoin qu'elle avait évidemment de lui répondre, elle ouvrit la porte, tout juste la place de passer, et lui fit signe de s'en aller. Le serrurier était encore sur le pas de la porte qu'on l'avait déjà fermée derrière lui à clé et tendu la chaîne. Le corbeau, s'associant à ses précautions, aboyait de son côté comme un vigoureux chien de garde. Cette ligue avec un personnage de mauvaise mine, un échappé de gibet, pendant qu'Édouard l'entend ici de sa retraite, la présence de Barnabé venu le premier sur le lieu de l'événement la nuit dernière, se pourrait-il que cette femme qui a toujours eu la meilleure réputation, fut devenue secrètement complice de tels crimes, dit le serrurier, se livrant à ses rêveries. Que le ciel me pardonne si j'ai tort et qu'il ne m'envoie que des pensées de justice, mais elle est pauvre, la tentation peut bien être grande, et nous entendons parler tous les jours de choses qui ne sont pas plus extraordinaires. Oui, oui, aboie, mon ami, il y a quelque chose là-dessous. Le diable ou le corbeau s'en mêle, j'en mettrai bien ma main au feu. »